chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles précautions prendre pour prévenir les incendies des baleinières? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Didier Mukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Monsieur Didier, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue dans cette émission. On aura également en ligne Monsieur Gabriel Mukango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Pour participer à ce magazine de la vie au quotidien, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Fabrication locale des batteries des véhicules électriques, quels sont les enjeux que cela représente? On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa, dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Pour participer à cette émission, eh bien c'est simple, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiocapi.net et postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation. Alain Goy, à la mise en onde, au micro, Jodine Kachama.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des précautions à prendre pour prévenir les incendies des baleinières. Vous savez, 20 personnes ont péri le 27 février dernier dans l'incendie d'une baleinière au port fluvial d'Ngafoura, dans la commune urbaine rurale de Maluku, ici à Kinshasa. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial, cet incendie a fait aussi 11 brûlés graves et plusieurs disparus, dont le nombre n'est pas encore connu. Des telles catastrophes sont fréquentes dans les cours d'eau de la RDC, d'après nos sources. Alors, quelles précautions prendre pour prévenir ces incendies des baleinières? Il n'y a pas que les incendies, il y a aussi des naufrages qui sont souvent régulièrement enregistrés. Monsieur Didier Mukoma est avec nous dans ce studio. Il est le représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Encore une fois, bonjour Monsieur Didier.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi ce qui est arrivé, cet incendie d'une baleinière. Quelle est votre réaction après avoir suivi ce qui s'était passé?
En tout cas, vraiment, c'est vraiment triste avec tout ce qui s'est passé et que ça revient toujours régulièrement malgré toutes les interventions que nous faisons pour que nous puissions trouver des solutions, en fait, que nous puissions éviter toutes ces catastrophes. Mais ça fait quand même vraiment beaucoup du mal parce que il y a perte de vies humaines. En tout cas, c'est vraiment déplorable.
Voilà. Si on ne parle pas des baleinières qui ont chaviré, il y a les incendies. D'après vous, qu'est-ce qui serait à l'origine de cet incendie-là?
En tout cas, l'origine de cet incendie, c'est-à-dire le manque de sécurité. C'est-à-dire, bon, ce sont des armateurs qui ont chargé des carburants dans un bateau, donc une baleinière qui n'a pas cette autorisation de transporter les produits pétroliers. Et en plus de cela, ils ajoutent des passagers à bord de ces bateaux-là. Et vous voyez, les passagers, ils sont là-bas, ils mangent là-bas, ils préparent, ils font leur cuisine là-bas. Ils
à côté des produits pétroliers.
Mais oui, ils sont assis sur des fils de carburant. Si vous passez les jours dans des ports, vous allez voir comment ces baleinières voyagent avec du carburant. Et au-dessus de fils de carburant, ce sont des femmes qui sont assises sur ce fil de carburant en train de préparer leur nourriture. Et voilà, c'est ce qui crée des incendies dans les bateaux.
Et est-ce que ces gens ne sont pas informés que c'est des produits dangereux?
Justement. Ils sont vrai, mais vous voyez, ce sont des gens qui sont, ça fait de l'argent. Mais à ce moment-là, c'est là où maintenant l'État doit. Nous sommes en train de condamner l'État parce qu'il y a la loi qui existe déjà. On peut pas transporter. Tous les bateaux ne sont pas habilités à transporter le carburant. Il y a des bateaux qui sont affectés au transport de carburant. Des bateaux, nous appelons les bateaux pétroliers. Et ce genre de bateaux, il n'y a que la CEP, je pense que Coibro qui ont ce genre de bateaux. Et les autres bateaux, tels que les petites baleinières, là, ce sont des bateaux de marchandises, de produits agricoles, des produits manufacturés, et qui ne peuvent pas transporter des pétroles ou bien de l'essence. Mais l'État, vous savez, il y a beaucoup de services, il y a 1000 services dans des ports, mais ils sont là, ils ne font pas appliquer la loi, ils laissent les armateurs, surtout ceux des petits des baleinières, transporter des carburants mélangés à des passagers. Et vous remarquez, normalement, les bateaux pétroliers ne peuvent pas coster dans n'importe quel port. Mais vous remarquerez que ces bateaux transportant des carburants, ils accostent dans les mêmes ports qu'avec tous les bateaux qui sont là-bas en déchargement de toutes sortes de produits, ce qui fait que il y a l'insécurité. Et là, c'est l'État qui doit intervenir pour taper un point sur la table et puis arrêter ce genre de transport qui ne sont pas fiables.
Et cette baleinière provenait d'où? Avez-vous une idée?
Oui, bon, il venait de Kinshasa vers Mandaka, selon les informations que j'avais reçues. C'est un bateau, une baleinière. Normalement, les baleinières, ils chargent beaucoup plus à partir de Maluku. Parce que les passagers, ils attendent beaucoup à partir de Maluku parce qu'ils ne savent pas à quand est-ce qu'un bateau ou bien une baleinière peut quitter le port de la ville de Kinshasa. Alors, pour être sûr,
ils attendent au niveau de Maluku. Attendre vers Maluku.
Oui, voilà. Là, ils sont sûrs que non, voilà. Le bateau a déjà pris son carburant. Il a déjà fait toutes ses formalités. Et quand ils arrivent à Maluku, là, c'est un voyage sûr. C'est à partir de Maluku qu'ils embarquent pour partir à l'intérieur du pays.
Jusqu'en Mbandaka.
Et ils vont même jusqu'à Kisangani, jusqu'à Ilebo, ce qui n'est pas normal.
Dans une baleinière.
Oui, dans une baleinière. C'est, comme je l'avais dit la fois passée, ce sont des petites cargaisons qui ne peuvent pas faire de grandes distances. C'est dangereux, ce sont des bateaux en bois et qui sont pas affectés de grandes distances comme ça. Et d'ailleurs même, on commence à fabriquer des baleinières qui vous transportent 200 tonnes, ce qui n'est pas normal. L'État devait maintenant revoir cette situation de façon que de limiter la capacité de fabrication.
Quel est le tonnage d'une baleinière?
Une baleinière, normalement, la limite ne peut pas dépasser 40 tonnes.
Pas
au-delà des 40 tonnes. Mais aujourd'hui, nous avons des bateaux, des baleinières de 200 tonnes qui vous font des longs voyages. Et vous voyez les risques qu'on est en train de prendre. Parce que si une baleinière te touche ses mains, un rocher.
Mais c'est fini.
C'est fini, il explose.
C'est le bois.
Il explose. Mm. Et même en cas d'incendie, vous voyez s'il y avait des matériels d'incendie. Si c'était aussi, par exemple, du métal, bon, il y a moyen peut-être d'intervenir. Mais les bois mélangés avec les carburants, vous voyez, c'est trop dangereux. Donc, l'État doit voir aussi comment limiter le.
Mais pourquoi on laisse faire les gens voyager dans des conditions si dangereuses?
Justement, bon, c'est ça la question que nous devons poser.
Des conditions
si dangereuses. Parce que vous remarquerez que nous avons beaucoup de services, multiplicité de services dans des ports. Il y a tous les services qui existent là-bas.
Quels sont ces services qui opèrent au niveau des ports et qui sont censés contrôler ces embarcations?
Les services qui sont censés contrôler les embarcations, nous avons, c'est la direction de la marine à travers un commissaire fluvial, donc qu'on appelle commandant du port. Et ce commandant du port, des fois aussi, il a aussi ses chefs, les chefs du poste, des postes qui sont là pour contrôler les bateaux avant le départ. Donc ils doivent contrôler les bateaux, son état de navigabilité. D'abord, savoir même d'abord aussi, ça c'est un élément très essentiel. Même si vous ne transportez pas les carburants, mais vous ne devez pas manquer un matériel anti-incendie. Vous pouvez pas manquer. Mais si vous regardez très bien, il n'y avait aucun secours sur ces bateaux. Même les voisins, même les bateaux qui étaient à côté, normalement, quand il y a un incendie comme ça, si les autres bateaux qui étaient à côté pouvaient déjà intervenir avec les matériels d'incendie, mais vous constaterez que aucun matériel, même dans les ports. Même dans les ports que nous accostons, nous devons avoir normalement de matériel aussi d'incendie. Vous constaterez que dans ces ports, il n'y avait aucun matériel. On a laissé les bateaux se consumer et il y a eu mort dans ce qui n'est pas
sûrement, il y a un fût qui a pris le feu et puis ça se répand très vite dans les autres fûts.
C'est ce qui s'est passé.
Facile d'éteindre ce genre de feu.
Bon, si on a des matériels, on peut quand même essayer de limiter les dégâts. Même si on n'arrive pas à tout bloqué, mais on peut quand même avoir un minimum de lutter contre ce genre d'incendie si on a les matériels et que si tout est bien organisé.
Mais donc on peut dire qu'au niveau des ports, il n'y a pas un contrôle sérieux
Il n'y a pas tout avant, ce qui intéresse les gens, oui, c'est de l'argent.
C'est l'argent.
C'est l'argent, c'est tout. À la fin de la journée, quand après la manutention, ils s'assoient quelque part, ils se partagent l'argent. Mais pour ce qui est du contrôle de sécurité, il n'y en a pas. C'est ça le grand problème que nous avons. Mais aussi, c'est comme j'avais dit aussi, c'est vrai, l'État aussi peut appliquer la loi.
Mais est-ce que ces propriétaires de baleinières sont membres de votre organisation ou pas?
Non, non, ils sont dans leur organisation, une association des transporteurs, des armateurs de baleinières. ICAB, je crois, ça s'appelle ICAB, ils font pas partie de notre association. Donc, alors, je disais que ce sont ces genres de bateaux. Mais c'est vrai, je disais que l'État peut appliquer la loi, mais il y a un problème qui se pose aussi. Ces gens-là doivent se déplacer, ils doivent manger, ils doivent nourrir leur famille, ils doivent travailler. Comment ils vont se déplacer? On a un problème aussi de bateaux qui sont affectés au transport de passagers, qui n'existaient pas.
Ça aussi, c'est un problème. C'est ainsi que les privés, bon, ont pris le
bon, relais. Les privés, comme je dis chez nous, bon, en tant que nous, privés, les passagers, nous ne rapportent pas. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de privés ne s'investissent pas dans
les transports,
des passagers. Ça, c'est un mode de transport, même dans le monde entier. Je pense que c'est l'État qui devait subventionner cela. L'ONATRA, à l'époque, c'est l'ONATRA qui s'occupait du transport des passagers. Il y avait beaucoup de bateaux de passagers au niveau de l'ONATRA qui faisaient l'intérieur du pays. Et pour le moment, ça n'existe pas. Disons, les bateaux existent, mais qui ne fonctionnent pas. Vous vous rappellerez, il y a au moins 4-5 ans, on a réhabilité des unités. Je crois Gungu et puis Colonel, je crois Kokolo. Mm-hmm. Ce sont des bateaux qui ont été réhabilités, qui sont là, mais ils ne travaillent pas, ils ne fonctionnent pas parce qu'il manque de moyens pour naviguer. On a les bateaux aussi Camagnola. C'est un bateau qui est là, qui a été refait, tout a été refait, mais qui est là, à l'ONATRA, il ne fait rien. Donc je pense que l'État pouvait quand même prendre certaines dispositions pour
s'occuper
mettre des moyens
transport,
des passagers, subventionner ces modes de transport pour que les gens évitent de voyager dans des conditions, c'est-à-dire dans des bateaux qui sont affectés au transport des marchandises, mélangés avec des passagers, ce qui n'est pas bon. Donc on doit lutter. Et puis voilà, pour aller aussi plus loin encore, ben, vous voyez, ça c'est un problème aussi peut-être à long terme. C'est l'exode rural. Ces gens-là, pourquoi ils viennent tout le temps à Kinshasa? C'est parce qu'il manque quoi faire dans les villages. Ils produisent leur maïs, ils produisent leur manioc. À qui ils vont vendre? Personne. Il n'y a plus de grands commerçants, il n'y a plus de grands opérateurs économiques comme à l'époque qu'on trouvait à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, après avoir produit mes 5 ou 10 sacs de maïs, il y a de grands acheteurs qui sont là, qui peuvent acheter et que eux, à leur tour, peuvent faire de grands convois pour amener à Kinshasa. Ils n'existent plus. Et ces gens, le fait qu'il n'y a plus rien à l'intérieur du pays, ces gens-là sont obligés, après leur production de 5, 10, 15 sacs de maïs,
ils prennent des embarcations,
pour venir vendre eux-mêmes,
oui,
ici à Kinshasa. Et au retour, ils achètent des petits produits manufacturés pour rentrer au village. Donc, il y a aussi un grand problème, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre l'exode rural en développant nos provinces, nos villages, nos zones rurales, de façon qu'ils puissent avoir, comme ils sont toujours à vocation agricole, c'est-à-dire qu'on puisse développer l'agriculture à l'intérieur du pays, comme c'était à l'époque, de façon que les gens puissent trouver du travail. Et je pense que si les gens sont bien dans leur village et qu'ils ont du travail, ils ne pourront pas venir chercher quelque chose, n'importe quoi, ici à Kinshasa.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Glody nous appelle de Kinshasa, Malonga de Bandounouville, Marcel Didier Passois de Louisa. Vous voulez aussi intervenir, composer le 081-890-63-94.
Oh, Mario.
Tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi, la radio de toutes les musiques.
Comment prévenir les incendies au niveau des baleinières? Glody, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Glody.
Merci. Je pense que les incendies sont devenus fréquemment à l'île démocratique du Congo. Et ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a toujours nous arrêtons le mort d'homme, ce qui n'est pas sérieux. J'ai suivi cet incendie-là qui s'est produit à Maluku. Ici, j'ai même des images dans mon téléphone. Je vous dis, c'est une catastrophe. Vous allez se rendre compte que les gens ont pris feu, ils sont transformés comme des animaux, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas sérieux. Alors, c'est un problème de l'État. Le tout revient à l'État, il est temps de mettre l'ordre. Ça, c'est d'abord la première parenthèse. Et la deuxième parenthèse, je voulais juste poser la question à monsieur l'invité. Monsieur l'invité, est-ce que, avez-vous déjà sensibilisé les passagers pour le dire que non, voilà, si vous êtes dans une embarcation, là où il y a du carburant, c'est très dangereux, ça peut exposer des histoires comme ça. Ça, c'est la question que je voulais juste vous poser, afin d'éclaircir certains auditeurs qui nous écoutent à partir de ces moments. Parce que ce qui n'est pas normal, dans des pareilles embarcations, vous allez se rendre compte que à gauche, là-bas, les gens sont en train de préparer leur coucou, leur nourriture, et à droite, là-bas, vous allez voir des fumeurs sont en train de fumer. Et ce qui n'est pas normal, à côté, là, il y a des carburants. Est-ce que, avez-vous déjà, par rapport à votre association, vous avez déjà pu sensibiliser les passagers qui font l'habitude de voyager dans des pareilles embarcations? Est-ce qu'ils sont au courant? Parce que vous pouvez pas condamner les passagers à certaines choses, peut-être les passagers font. C'est par manque d'ignorance, c'est pas que peut-être si vous voyagez avec des carburants, c'est un danger d'hésitant comme ça. Si vous pouvez vraiment bien nous éclaircir, je dis et je vous remercie.
Bien, Malonga de Bandundouville, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour notre invité, bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux incendies des baleinières?
Bon, c'est nous qui sommes vraiment le plus victimes de ça. Pour éviter ça, Jody, ce que mon frère vient de dire là-bas, c'est le problème de l'État. Il faut que l'État s'engage sérieusement. Puisque l'État n'est pas observateur au port. Il est là pour travailler, pour compléter ce qu'il doit faire pour protéger la population. Mais il est là seulement pour rançonner quelque chose et puis laisser les dangers partir et finalement proclamer que non, il y a des incendies. Vous voyez, je dis, s'il y a les ports, il y a les parkings, c'est pour épargner quelque chose des dangers. Mais nous aussi, ici, à Bandundouville, puisque nous pratiquons souvent les baleinières. Il n'y a plus encore le bateau qui nous arrive ici. Et la route que nous fréquentions souvent, c'est la route ici Bandundu, Mongata qui chasse, en tout cas c'est catastrophe. Nous faisions souvent les bus, GTT, WZ et tout ça. Mais ce n'est pas fréquent encore. GTT qui reste seulement 16. Alors ça devient exorbitant. Alors raison pour laquelle la population fuit la route, commence à pratiquer la baleinière. Alors le service qui est là au port, est-ce qu'il ne peut pas vraiment imposer que s'il y a la baleinière qui porte le passager, il ne faut pas mélanger le passager et d'autres choses. Là, si cette imposition s'impose là-bas, en tout cas, on peut protéger les incendies. Parce que si la population s'engage là-bas et on fait deux jours, trois jours, il doit y avoir de la préparation. Et la baleinière fonctionne avec le Daka-Daka aujourd'hui. Daka-Daka, c'est le fait.
C'est quoi le Daka-Daka là?
Oui, c'est le Daka-Daka. Si vous partez là, si vous faites les besoins, vous voyez le fait qui s'allume. C'est le Daka-Daka, c'est le feu qui s'allume.
Mais alors, c'est quoi le Daka-Daka Malonga? Je ne comprends pas.
Bon, Daka-Daka, c'est le moteur qui fait marcher la baleinière.
Qui fonctionne avec les carburants, et disons le gasoil.
Ok, alors, là, c'est un moteur
De marque chinoise.
De marque chinoise qui fonctionne avec le gasoil.
Ça travaille avec les mazout. Alors, si vous voyez lorsque ça fonctionne, je vous dis, c'est le feu. C'est le feu qui s'allume. Alors, moins de tentatives seulement de produire d'autres choses inflammables, en tout cas, ça va faire comme ça. Mais on mélange la population avec leur toutes activités.
Avec les sacs de maïs, les poules, etc.
Tout.
Mélange terrible.
Il faut que l'État s'impose pour régulariser la chose.
Merci Malonga de Bandundouville. On va donner la parole à Marcel Didier Passois de Louisa, au Kassai Central. Marcel Didier, bonjour. Il n'est plus là. Maître Yves de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à Radio Café.
On vous écoute, maître.
Bon, en tout cas, c'est déplorable. Je crois que les Congolais sont tellement morts qu'ils continuent à mourir, que des sanctions dans ce genre de choses doivent être quand même prises. Vous comprenez, selon l'invité, que d'abord, la baleinière n'était pas autorisée à naviguer, mais qui a laissé cette baleinière partir vers l'équateur. Et donc, vous comprenez que moi, je crois que la corruption dans ces services de l'État est la seule cause de malheur des Congolais. Donc, à tous les niveaux, à tous les échelons, c'est la corruption jusqu'à ce niveau-là. Donc, les responsables du secteur des transports, qui connaissent bien que le navire n'était pas autorisé à circuler, mais on laisse quand même partir. Et selon l'invité, vous comprenez que on a mélangé le matière inflammable. On prend les personnes humaines qui doivent se déplacer, on mélange avec ces matières inflammables et il y a maintenant cette catastrophe-là. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, M. Jody. Ça a commencé depuis très longtemps. Souvenez-vous de la crasse de Ndolo. Nous avons beaucoup pleuré les Congolais dans ce pays. On doit quand même arrêter. Le ministre des Transports, qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Si ce genre de choses passent ailleurs, on devrait entendre qu'il y a eu des gens qui tombent et des gens qui doivent être sanctionnés sévèrement.
Mais apparemment, on a jamais entendu. Maître Yves, on dirait qu'il n'y a jamais eu des sanctions depuis qu'on déplore tous ces morts, etc.
Mais c'est ça, monsieur Zoudi, dans ces pays, la sanction, l'impunité dans ce pays, la corruption. Moi, je crois que les Congolais doivent s'élever. La seule cause de malheur dans notre pays, c'est la corruption, l'impunité dans ces pays. Voilà pourquoi les Congolais meurent chaque jour. Il n'y a pas seulement des gens qui meurent à l'Est, mais tout ça sont des morts chaque jour. On a risqué des catastrophes dans le domaine des transports, la surcharge, etc. Même le transport fluvial, le transport terrestre, partout c'est comme ça que les Congolais s'entraînent. Parce que les autorités, les services de l'État sont corrompus, M. Jody. C'est la seule cause. Nous devons nous mettre debout tous ensemble pour combattre la corruption. C'est ça la cause de tout ce malheur-là. Moi je crois que les sanctions doivent quand même être tombées. On ne peut pas laisser comme ça les entraîner, mourir comme si c'était des animaux.
Merci Maître Yves de Kinshasa. Monsieur Didier Moukoma, à vous la parole.
Merci, j'ai suivi le premier intervenant, je crois, Monsieur Glody, qui se pose la question de savoir si on informe le...
On sensibilise les passagers parce qu'ils sont ignorants parfois, ils voyagent avec des produits inflammables.
Normalement, un bateau, bon, il y a parfois des exceptions, il y a un bateau, parce que vous savez, il y a aussi un problème qui se pose, c'est des manques de dépôts de carburant tout au long du fleuve. Par exemple, de Kinshasa à Ilebo, il n'y a pas un dépôt de carburant. Ce qui fait que les baleinières et les autres bateaux, ils sont obligés d'avoir des quantités énormes pour faire des voyages aller-retour. Ça aussi, c'est un problème. Je pense que
ils mettent ça dans des bidons, là, dans ces baleinières.
Oui, mais pour les baleinières, ils mettent dans des bidons. Mais tandis que pour les grands bateaux, nous avons des gros tanks de réservoir qui peuvent vous prendre même 40 à 50 000 litres. Il n'y a pas de problème. Mais tout cela, c'est parce que nous manquons de dépôts au cours de navigation. C'est-à-dire, si on avait, par exemple, un dépôt de carburant à Mouchi et à Dibaya,
on peut ravitailler là-bas et puis on continue.
Donc, on n'a pas besoin d'avoir des carburants. Par exemple, les baleiniers n'ont pas besoin d'avoir des bidons de carburant. Tandis que dans les bateaux aussi, on ne peut pas s'acheter beaucoup de carburant. Ça fait du poids dans les bateaux pour faire les voyages. Et sur le fleuve Congo, nous avons un dépôt en Mbandaka pour 1700 km. Il y a aussi un petit dépôt qu'on vient d'ouvrir à Bumba, ce qui est insuffisant pour tous les nombres de bateaux qui naviguent et certaines sociétés qui sont dans des provinces qui utilisent les carburants. Donc pour la sensibilisation des passagers, normalement selon la loi, quand vous avez, il y a parfois des exemptions. Le commissaire fluvial a cette autorité de vous donner une autorisation provisoire pour transporter le carburant. À ce moment-là, vous devez afficher un drapeau qui montre qu'il y a un danger, il y a le carburant. Et vous devez même mentionner là-bas, interdiction de transporter les passagers. Donc, on ne peut pas transporter les passagers quand on a transporté le carburant à bord d'un bateau. On sensibilise, mais il y a un problème. Le problème, c'est que moi, je suis armateur, je ne voyage pas avec mon bateau. Le problème est que quand les bateaux quittent ici, arrivent déjà au-delà des Maloku, ce sont certains membres d'équipage qui sont indisciplinés, en collaboration avec certains services de l'État,
qui prennent des passagers le long de la route.
De la route. Et c'est là
alors
aussi,
qu'au départ, il y avait personne.
Quand tu regardes les bateaux, quand ils quittent à Kinshasa, ils sont propres, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, même les passagers, qu'est-ce qu'ils font? Il faut même, ils prennent les pirogues motorisées pour aller attendre les bateaux à Mambutuka. Mambutuka, donc, c'est à 30 kilomètres, disons, à 90 kilomètres de Kinshasa. Mmh. Ou bien ils vont jusqu'à Mbankana. Mbankana, c'est plus de 100 kilomètres. Donc, ils vont attendre là-bas parce qu'ils savent que les patrons, les armateurs ne peuvent pas.
Ils ne peuvent pas arriver là-bas. Donc, oui. Ils peuvent.
Et c'est là aussi la responsabilité est partagée. Ce n'est pas seulement aux armateurs de sensibiliser les passagers, mais les passagers, nous tous, on sait que vraiment le carburant, c'est un danger. On ne peut pas le mélanger avec du feu. On ne peut pas s'asseoir à côté et commencer à faire avec la cuisine. Ça, vraiment, ce sont des.
Mais est-ce
des
qu'au moins vous sensibilisez vos équipes là qui font ça?
Absolument.
Au départ, il n'y a personne. On se rend compte qu'il n'y a que du carburant. Mais arrivé à Mambutuka, ils prennent les gens.
Vous savez, dans nos bateaux, par exemple, qui sont organisés, nous avons un règlement d'ordre intérieur. C'est bien spécifié. On ne peut pas transporter les passagers. Mais c'est comme je vous ai dit, en complicité avec les services de l'État. Vous arrivez à Maluku, ce sont. Vous remarquerez quand il y a, par exemple, 500 passagers. Plus de 200, ce sont des gens qui ont des autorisations de voyage, de l'armée, des services de sécurité, des commissariats fiviaux. Donc, tout le monde a une
autorisation. Des gens qui ne payent pas, ils ont tous des documents.
Et c'est ça qui profite aussi maintenant à nos travailleurs. Ils vous disent que non, voilà, chef, on nous a imposé par les amateurs. Ils vous sortent tous ces
documents-là.
Mais derrière ces documents-là, derrière, il y a ces 200... passagers, ils en ont aussi
ils
plus
en
de
ont
300.
Aussi 300.
Non, ce qui nous met dans la difficulté de contrôle, on ne sait pas contrôler dans cette situation-là. C'est un peu compliqué. Donc.
Et Maître Yves est indigné. Il dit, pourquoi il n'y a jamais eu des sanctions? C'est la corruption, l'impunité, et il n'y a jamais eu des sanctions. On n'a jamais appris qu'on a arrêté un commissaire fluvial ou quelqu'un qui a donné des autorisations. Il y a eu un mort d'homme, mais il se retrouve en prison.
Bon, c'est ça le problème. On se plaint chaque fois et la multiplicité de services dans les ports, ils sont là.
Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions, monsieur Moukoma?
C'est ça le problème, il faut demander maintenant au gouvernement. C'est comme j'ai dit, vous voyez même, il y a eu cette catastrophe, mais bon, je n'ai pas entendu le ministère des Transports s'exprimer, ni faire
rien
quelque chose.
Rien du tout.
Donc on sent une absence sur terrain de notre ministère des Transports. Donc il y a encore vraiment une grande absence. Ce qui fait que ça puisse aussi être un des faits qu'il ne puisse
qui
pas
favorise la corruption, laisser aller.
Ouais. Si tous les agents qui sont dans les ports, ils savent que non, les ministres ou bien le gouvernement, ils sont vraiment derrière nous, je pense qu'ils pourront faire appliquer la loi telle qu'il le faut.
Bien, on va accueillir M. Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. M. Gabriel, bonjour.
Bonjour, monsieur Jédi, et bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Bien, monsieur Gabriel, on déplore encore des morts après l'incendie qui est survenu dernièrement au port de fluvial d'Engafoura, une baleinière qui transportait des produits pétroliers et des passagers. On se demande toujours, il y aura toujours ces genres de cas, il n'y a pas de sanctions, on n'arrive pas à arrêter tous ces dérapages. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, monsieur Gabriel, pour réduire ces genres de situations?
Bonjour, merci bien pour la question. Je reviens pour dire que c'est le non-respect de texte de loi qui réglemente le secteur de transport fluvial. Et ces dérapages venus plus quand on a libéralisé le secteur de transport fluvial. Et tout le monde est précipité dans ce secteur, alors que avant, quand c'était l'unique opérateur, je ne fais pas l'avocat ici de quelque autre société, la STP et son ACRA, qui savait traiter les passagers, le marchandise et le produit que nous appelons inflammable et produit toxique et chimique. Et comment voulez-vous, dans une baleine, il fait un stock important d'où le sang, avec un autre important de passagers, Et à bord, les gens préparent. Il suffit d'une moindre étincelle et c'est l'incendie. Et c'est ce qu'on a déploré. Quand j'ai vu les images, donc c'est qu'ils avaient à bord de l'essence que nous appelons produit inflammable et ça a été qui a occasionné ça. Mais s'il y avait respect, comme dans le cimetière approprié, comme celle qui transporte le produit pétrolier, est-ce que les dix passagers interdits? On met le drapelet pour dire qu'il y a des produits inflammables ici, et on ne peut pas fumer, on restreint tout ce genre de cas, ça peut arriver, mais on restreint ça. Mais tel que ça s'est fait là, c'est du mélimélo, donc nous sommes loin de sortir de notre situation.
Voilà, et pourquoi il n'y a jamais eu des sanctions? C'est ça le... c'est qu'on déplore toujours. Il y a corruption, on laisse faire, il y a l'impunité, il n'y a pas de sanctions. Pourquoi on évolue ainsi?
Bon, le problème, c'est toujours le problème d'homme. Hein? Le problème d'homme, il faut être consciencieux et savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Au départ, vous savez que c'est prohibé de transporter le produit inflammable avec le produit toxique. Mais vous le faites. Le commissaire fluvial du lieu du départ ou pendant tout le parcours de l'unité jusqu'à destination, est-ce qu'il prend le temps de venir à bord pour voir qu'est-ce que vous avez réellement transporté? Est-ce que l'armateur prend soin de déclarer au départ et à part telle marchandise, j'ai de produits inflammables à bord. Donc tout cela échappe, et seulement quand un accident arrive, et c'est là où on hausse le ton. Mais cela doit être déclaré, parce que tous les armateurs savent qu'il y a des documents à remplir. Et que ces documents à remplir doivent être mis à la disposition du préposé de l'État, qui est censé contrôler. Et dans le cas ici, il faut séparer. Il faut séparer le transport des inflammables ne peut pas aller de pair avec le transport de personnes et d'autres marchandises. Si nous faisons les distinguos comme ça, comme certes le respect et d'autres personnes, des armateurs, consciencieux, je crois que nous allons éviter. Mais les gens qui transportent un stock important à bord. Non pas seulement le transport pour eux, mais je m'imagine qu'ils aussi, parce qu'ils sont des kadhafis. La RVF a des baliseurs, le président Moukoma qui est là, que je salue en passant, a des bateaux, mais le réservoir a une capacité. Donc, il ne peut transporter que la capacité que le constructeur a prévue. Mais nous disons, si nous prenons, on fait des calculs, est-ce qu'on peut s'approvisionner à eux? Il est bien vrai que les points d'approvisionnement ne sont pas aussi nombreux sur le fleuve ou sur le Kassai, moins encore sur les autres appuyants, mais on s'arrange toujours. Mais la plupart, parce qu'ils sont et commerçants et Kadhafi, parce qu'ils savent que quand je ramène ça à l'intérieur, je vais vendre ça au double du prix normal et ici. Et par mégarde, c'est ce qui arrive. Parce que, non pas seulement l'intérêt, mais les conditions, dans quelles conditions ce carburant est transporté.
Oui, alors, monsieur Gabriel, alors, dans ce genre de situation, qui est, comment établir les responsabilités? Qui est responsable? Est-ce que c'est le commissaire fluvial, l'équipage, ou c'est l'armateur? Le propriétaire de l'embarcation qui emporte la responsabilité?
Je veux être franc avec vous pour dire que le premier responsable, c'est l'armateur. C'est lui qui doit déclarer. Mais s'il ne le déclare pas, et que l'autre aussi, dans l'exercice de ses fonctions, a défailli, au lieu d'aller voir réellement, mais il se contente du rapport verbal qu'on lui a fait, c'est ça. C'est là où les responsabilités peuvent être partagées. Mais j'ai dit, le premier, c'est l'armateur. temps, il doit déclarer que moi j'ai tel produit, tel produit. Et même le produit chimique, il ne peut pas le transporter comme ça. Parce que ça peut causer des lésions corporelles aux passagers. Même les passagers qui vont humer ça. Donc c'est comme ça que le législateur, c'est comme ça que l'État, qui a le rôle régalien, a essayé de séparer les traitements de ce genre de produits et ne pas les mélanger.
Bien, monsieur Didier Moukoma, votre réaction.
Oui, bon, par rapport aux responsabilités en cas de d'accident, d'incendie pareil, je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que c'est comme je vous ai dit, ces gens-là, bon, l'armateur peut-être, il a chargé les carburants, il a fait sa déclaration, il a des fois une autorisation du commissaire fiscal pour un parcours déterminé en transport de carburant. Mais
pas avec des passagers. Le commissaire fluvial, peut-être, il sait que c'est pas avec.
Oui, il est parce que dans tous les ports, nous avons comment on les appelle, les chefs de poste. Les chefs de poste qui représentent les commissaires fluvial dans tous les ports, par exemple ici dans la province de Kinshasa. Ils sont là, accompagnés d'autres services. Nous avons même les services des hydrocarbures, ils sont là. Mais vous constaterez que ces services-là, ils sont là-bas, c'est pour percevoir seulement l'argent. Même l'hydrocarbure, c'est l'argent qui l'intéresse, mais les conditions, disons, des stockages,
ça c'est pas leur problème.
C'est pas leur problème.
C'est l'argent.
C'est l'argent qui les intéresse. C'est que la même chose aussi au niveau du commissariat fluvial, de la direction de la marine. Ce qui est intéressant, c'est l'argent, mais pas le travail. C'est que la qualité de l'embarquement, les conditions de chargement, tout cela, ça ne les concerne pas. Même quand on parle même pour le chargement, les niveaux de chargement pendant la période de basse saut, il y a une limite de chargement et c'est le commissaire fluvial qui doit déterminer, qui doit contrôler pour dire que voilà, il y a ces bateaux, on ne peut pas dépasser par exemple 1,20 m. Mais si lui il est là, il regarde, il donne le permis et que le bateau est parti, je pense que c'est lui le responsable numéro 1. S'il a donné le permis, ça dit que c'est lui le responsable numéro 1, suivi de l'armateur qui est responsable civilement de cet acte. Donc,
l'armateur de bonne foi, il savait qu'il n'y avait que de produits pétroliers, mais les membres de son équipage, en cours de route, ils prennent les gens à son insu.
Ouais.
Ah, Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là?
Non, c'est à l'armateur de voir maintenant des sanctions à prendre envers ces travailleurs, mais lui, il est responsable civil.
Il emporte la responsabilité.
En tant que, oui, il porte la responsabilité en tant que propriétaire du bateau. C'est l'armateur.
Bien, ouais. On va accueillir Justin de Calabia de Harou et Safari depuis Iga Barrière.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, nous parlons des incendies et catastrophes au niveau du fleuve, comment prévenir les incendies dans les baleinières, etc. Avant, on parlait beaucoup plus des baleinières qui ont chaviré. Maintenant, on parle de plus en plus des incendies, avec ce qui est arrivé dernièrement au niveau de Maluku. On va accueillir Justin Calabia depuis Yarou et Safari depuis Iga Barrière. Justin, bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour à notre invité qui est au plateau de la radio Capi et bonjour à tous les intervenants qui viennent d'intervenir.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi je pense qu'il faut que la loi existe dans ce pays, monsieur Jody, et qu'elle soit appliquée d'une manière rigoureuse. La vie humaine est sacrée. Et puis je vous demande même une minute de silence, monsieur Jody, pour commémorer toutes les âmes qui ont péri. Oui, merci beaucoup. Moi, je me demande que est-ce que dans ces pays, nous avons vraiment les ministères des différents services entre l'État, entre autres, le ministre des STP. Moi, j'ai une expérience aussi, j'ai un témoignage de ce qui s'est passé quand je suis étudiant. J'ai quitté Bukavu pour Goma. Les étudiants restent souvent là où il y a des chèvres, hein, là où il y a des moins chers, des 5 dollars. Nous, on était mêlés avec des chèvres. Et puis, une chèvre avait failli de nous causer un accident jusqu'à ce qu'il y avait les secouements à cause d'une chèvre. Moi, je me demande comment les êtres humains peuvent être mêlés avec des bêtes.
Mais Justin, pourquoi vous avez accepté de voyager dans ces conditions à côté des chèvres?
Mais je n'étais pas seul. Nous étions nombreux. Les étudiants restent là où il y a des chèvres de moins chères, de 5 dollars, de 10 dollars, etc. Parce qu'il y a des niveaux. Et puis, et ça, c'était un témoignage, monsieur, je dis, parce que je ne sais pas si nous avons vraiment des services qui s'occupent des moyens de transport. Et puis, la première question est celle de savoir, monsieur, je dis, pourquoi beaucoup de baleinières naviguent sans lumière? Et la deuxième question, pourquoi aussi les propriétaires de ces baleinières aiment voyager la nuit? Merci, et voici mes questions et bonne journée.
Bien, merci Justin, depuis Justin Kalabia, depuis Yarou Safari. Vous êtes à Iga Barrière, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde, monsieur Jeudi. Par rapport à cet accident que nous venons de connaître, monsieur Jeudi, nous savons que l'accident est l'accident. Hein? Il y a aussi parfois le lieu d'éviter l'accident. Mais comme les gens disent toujours, il n'y a que de mauvais chefs. Donc le Congo, sa maladie, au Congo il y a de mauvais chefs. Peut-être qu'on pourrait renforcer les services de contrôle. Hein? Au port, là peut-être qu'on n'allait pas connaître l'accident, mais malheureusement aujourd'hui nous venons de connaître encore autre accident. Avant c'était le naufrage, mais aujourd'hui c'est encore l'incendie. Bon, malheureusement on n'a rien à faire. Donc par rapport aux luttes contre l'incendie, moi je pense qu'il faut beaucoup renforcer les services de contrôle. Là alors on espérera peut-être désormais ne pas connaître ce genre d'accident. Donc, merci.
Bien, M. Gabriel Mokango, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que les auditeurs ont exprimé tout à l'heure?
Merci, je remercie les deux premiers auditeurs pour leurs questions. Pour M. Justin, comme il l'a dit, le texte de loi existe, mais il suffit seulement de les appliquer avec beaucoup de rigueur. Et le mélange dans le traitement des passagers et de marchandises doit être interdit, et c'est déjà interdit, doit cesser. Parce qu'il y a des textes qui existent, et les armateurs ou ceux qui veulent exercer dans le secteur ne peuvent que se rapprocher des services de l'État pour avoir ce texte et le lire et le comprendre dans son intégralité. Et il pose aussi la question pourquoi le baleinier n'a pas de lumière. Mais c'est tout à fait vrai. Le baleinier, quand bien même il y a des normes de construction navale, ne répondent pas parce que la nature a horaire de vie. Le bateau à tôle naval doit respecter ses normes de construction. Les bateaux doivent avoir des faits de position, des faits de mât, pour qu'on sache que les bateaux est à la montée ou à la descente. Et il a des projecteurs pour chercher les obstacles et voir les signaux de balisage. Mais il n'y en a pas à bord de baleinières. Donc le baleinier, si nous pouvons accepter, parce que ça aide quand même dans le transport des personnes et des biens, mais naviguer que le jour. Quand la nuit se pointe, ils doivent faire escale technique et passer la nuit là-bas. Mais pourquoi ils préfèrent la nuit? Nous avons dit plusieurs fois ici dans les émissions. Ils préfèrent la nuit. Est-ce que c'est pour fuir les tracasseries, entre guillemets, des postes de contrôle? Ou pour faire quoi? Mais en principe, il y a un arrêté ministériel qui interdit la navigation de nuit, notamment pour moi-même, j'ai plusieurs fois navigué. On a failli entrer sur des pirogues la nuit comme ça, mais ils n'ont que des petites torches de Chinois, dont la luminosité n'est pas réglementée. Donc, parfois, on se trouve à quelques centimètres d'une autre baleinière. Plusieurs fois, vous avez appris qu'il y a une collision et un bateau est entré sur... à cause de ça, on ne sait pas voir. Donc, il faut que les gens prennent les choses au sérieux. Il nous respecte. Le baleinier ou le pirogue qu'on a mis deux, trois sous forme de catamaran ou de trimaran ne peuvent pas naviguer la nuit. Et ça, si le service de l'État, que ce soit la police fluviale, la force navale, le voit, ils doivent les arrêter. C'est formellement interdit, c'est pour leur bien.
D'accord. Merci, Monsieur Gabriel Moukang. Je rappelle que vous êtes directeur technique à la régie des voies fluviales. Bonne journée et à la prochaine.
Ok, merci bien, monsieur. Je dis merci aussi aux auditeurs du Radio Cap.
Monsieur Didier Moukoma, est-ce qu'il y a, on peut espérer cette fois-ci qu'il y aura une commission d'enquête qui va être mise sur pied pour enquêter sur cette affaire?
Je l'espère bien aussi parce que cela ne dépend pas de moi.
Généralement, il n'y a jamais eu des commissions d'enquête après.
Non, mais à l'époque, nous avons eu des temps, on a sanctionné même certains ministres à cause des cas pareils. Je me rappelle une fois, il y avait eu des bateaux qui ont coulé, il y a des ministres qui ont perdu leur poste à cause de cela. Mais pour le moment, bon, j'espère aussi que le gouvernement, le ministre pourra dépêcher une équipe pour faire une enquête sur cet incendie, afin que nous puissions trouver des solutions pour que nous puissions éviter qu'il y ait des cas similaires à l'avenir.
Mais jusque-là, aucune communication du ministère des Transports.
J'ai suivi cette communication, je crois, de la ministre de, je crois, provinciale des Santé, de la communication provinciale. À part ça, je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi en tout cas.
Donc, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ça va, le cycle va continuer.
Tant qu'il n'y a pas de sanctions, tant que tout ce que nous venons, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, si on ne met pas ça en pratique, en tout cas, on aura toujours la répétition de ce genre d'accidents et ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Donc la seule solution, c'est, comme je l'ai dit...
Ça suscite l'émotion, tout ça, les émotions, et puis on en parle, et juste après, on oublie, et puis on passe. Et on attend un prochain accident.
Justement ça. Donc c'est pour cela, je disais en résumé, pour moi il faut d'abord qu'on puisse vraiment faire appliquer la loi dans sa rigueur. À part l'application de la loi dans sa rigueur, il faut qu'on puisse subventionner l'ONATRAM à qui il est devenu une société commerciale.
Donc on doit remettre en état les
bateaux. Oui, déjà il y a déjà quelques unités qui sont là, mais il manque seulement les frais de fonctionnement. Donc l'État pourra, les gouvernants pourront voir comment il peut mettre un petit budget annuel qui pourra faire fonctionner, faire voyager ces bateaux-là, même une fois tous les mois, c'est-à-dire 12 fois par an, ça pourra vraiment aussi donner une solution à ces
problèmes. Mais est-ce que c'est que les gens payent, là, les passagers payent ça?
C'est insignifiant. Vous avez 400, par exemple, les passagers. Même si vous mettez, par exemple, les billets à 100$, ça fait 40 000$. Ça ne fait même pas les carburants. Mais un type de bateau comme Kokolo, il te consomme 200 000 à 300 000 litres aller-retour, ça fait déjà 300 000$. Donc c'est pour cela, ça
jusqu'à
nécessite...
Jusqu'à Kisangani, Kinshasa.
Kinshasa, oui.
Donc ça, bon.
Rien que les carburants, ça fait même pas 10%, 20% de la consommation de carburant. Donc c'est pour cela, j'insiste sur la subvention de ces sociétés et pourquoi pas aussi les privés, s'il y a les privés qui sont en mesure de les faire et que l'État est subventionné, ça fait partir d'une des solutions. Et des trois aussi, il faudra que nous, l'État puisse voir comment implanter le dépôt de carburant
le long du fleuve.
Sinon on sera obligé toujours de transporter des carburants dans toutes les mauvaises conditions que nous venons de connaître et ça ne va pas arrêter. Donc ça c'est un des problèmes. Et aussi ce qu'on dit toujours, il faut lutter contre l'exode rural. Tous ces gens là se déplacent en masse, c'est parce que ils n'ont rien à faire dans leur village. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas des grands acheteurs de produits agricoles sur place. Mais je pense que s'il y a quand même quelque chose qui se faisait, peut-être comme dans le cadre des 145 territoires, s'il y a du sérieux et que ces projets vraiment arriver à se matérialiser, je pense que ça sera une des solutions au problème de transport de passagers sur le fleuve Congo. Et de quatre aussi, il faut limiter la capacité de fabrication des baleinières. Il faut que l'État, à travers la direction de la marine, puisse limiter aux ingénieurs qui fabriquent, aux chantiers navals qui fabriquent les bateaux, les baleinières, les limiter à 40 tonnes, ne pas dépasser ces 40 tonnes, et puis les limiter aussi dans leur distance de navigation. Trois aussi, il faut insister sur les matériels d'incendie. Donc, il faut vraiment que l'État puisse, et nous-mêmes aussi armateurs, puissions vraiment prendre vraiment cette conscience qu'il faut avoir des matériels anti-incendie à bord de nos bateaux et surtout dans des ports aussi. Dans des ports, il faut qu'on ait vraiment aussi, pourquoi pas même des camions dans des ports.
Et lutter contre la corruption. La corruption, c'est ça le vrai problème.
Oui, ça aussi, il faut lutter contre la corruption parce que c'est ça aussi l'un des problèmes. Parce que tous ces services et tous nos travailleurs aussi, vous voyez, ce qui est leur point commun, c'est l'argent.
C'est l'argent.
Donc, voilà, il faut aussi lutter contre cela. Et aussi, le dernier élément, c'est la, j'insiste toujours sur la mise en place du commission, de la commission, du Conseil supérieur de la navigation. Donc, ce conseil, comme je dis toujours, c'est un conseil qui existe déjà. Il y a la loi qui est déjà là, qui l'établit. Mais c'est la mise en place qui pose problème. Mais si ce conseil existe, avec, c'est un conseil qui comprend tous les intervenants du secteur de transport fluvial, et qui se réunissent à une ou deux, trois fois tous les trois mois pour trouver des solutions en rapport avec le transport fluvial. Je pense qu'il y aura des solutions parce que tout le monde aura à poser son problème, c'est-à-dire les armateurs de leur côté, les services de l'État de leur côté, avec tous les ministères, par exemple les ministères des transports, il y a les ministères de l'Intérieur, les ministères des hydrocarbures, et chacun pourra poser son problème et pourra trouver une solution. Et cela nous évitera que nous puissions avoir des amateurs apprentis. Ce n'est pas n'importe qui parce que tu as des moyens, tu te mets
dans les domaines, tu te lances dans les secteurs.
Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de laisser aller.
Monsieur Didier Moukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, merci d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine.
Merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci pour cette attention.